RCF.
6h30, voici donc les informations avec Clotilde Dumay.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le cadeau empoisonné de Joe Biden pour ses un an de mandat. Sa réforme électorale vient d'être retoquée par le Sénat, alors que le président américain a essayé de défendre le bilan d'une première année marquée par le Covid-19. Dans l'actualité également, la nouvelle grève des enseignants. Une semaine après une mobilisation historique, les syndicats veulent mettre la pression sur le gouvernement. Et puis, qui est jaune et qui attend? Eh bien non, ce n'est pas que Jonathan, il y a aussi le citron de Menton. La récolte bat son plein sur la Côte d'Azur. Reportage en fin de journal.
Il y a tout juste un an, la star de la pop Lady Gaga interprétait ce qu'on vient d'entendre, l'hymne américain sur les marches du Capitole. C'était pour l'investiture de Joe Biden.
Et au même endroit qui avait été pris d'assaut quelques jours plus tôt par les partisans de l'ancien président Donald Trump. La démocratie l'a emporté, avait alors affirmé Joe Biden dans son discours d'investiture, lui qui se présentait comme le président de tous les Américains. Un an plus tard, le démocrate doit en réalité faire face à de nombreuses difficultés entre le Covid-19, les tensions avec la Russie et l'incapacité à faire adopter ses projets par le Congrès. Le Sénat vient d'ailleurs d'enterrer sa réforme électorale pour protéger l'accès aux urnes des Afro-Américains. Mais pour Christophe Deroubet, journaliste spécialiste des États-Unis, Joe Biden a encore quelques cartes à jouer.
En l'état, Joe Biden est un président qui n'a ni bilan, ni perspective. Deux solutions s'offrent à lui. La première piste que lui ouvrent ses conseillers, c'est de, plutôt que de présenter des grandes lois, de présenter mesure après mesure. Par exemple, dans la grande loi sociale, il y a un certain nombre de mesures comme la généralisation de l'école maternelle, comme un programme public d'aide pour la garde d'enfants. Plutôt que de mettre tout ça dans une grande loi dont le montant global peut apparaître très élevé, hein, puisqu'on parle là de entre 1700 et 2200 milliards, mais sur 10 ans, présenter mesure par mesure au vote. La deuxième piste, à laquelle l'encourage une partie de l'aile gauche progressiste, c'est de créer un rapport de force au Congrès, c'est-à-dire soumettre, quoi qu'il arrive, malgré l'opposition de Joe Manchin notamment, ou de Kyrsten Sinema, c'est de soumettre les lois au vote et que chaque élu, député et sénateur prenne la responsabilité de voter contre, par exemple, une loi sur les droits civiques. Voilà les deux pistes qui s'ouvrent à lui.
Et en tout cas, au cours d'une conférence de presse, Joe Biden a défendu son bilan concernant notamment la vaccination des Américains contre le Covid-19, mais aussi la création d'emplois et la croissance. Il a tout de même concédé qu'il n'avait pas anticipé un tel degré d'opposition des conservateurs à ses projets. Et puis une petite formule a suscité beaucoup de commentaires lorsque le président américain a évoqué la possibilité d'une incursion mineure de la Russie en Ukraine, comme s'il se résignait à une attaque. Peu après, la Maison-Blanche a clarifié ses propos en promettant une réponse sévère en cas d'invasion. Le chef de la diplomatie américaine doit aujourd'hui parler de ce dossier avec les Européens avant une rencontre demain avec son homologue russe. Et dans son discours devant le Parlement européen hier, Emmanuel Macron a justement évoqué le cas de la Russie en plaidant pour un dialogue franc et exigeant avec Moscou. Pour le début de la présidence française de l'UE, le chef de l'État a aussi indiqué qu'il voulait actualiser la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en y ajoutant la protection de l'environnement et la reconnaissance du droit à l'avortement.
Dans le reste de l'actualité, Benoît XVI savait-il des choses concernant les abus sexuels commis sur des mineurs en Bavière ?
Un rapport va être présenté aujourd'hui pour recenser les cas d'abus sexuels commis sur des enfants entre 1945 et 2019 dans l'archevêché de Munich et Freising. Et ce rapport devrait aussi en dire davantage sur la potentielle implication de Benoît XVI et d'autres ecclésiastiques de haut rang, Florian Perret.
Les auteurs de cette expertise menée par un cabinet d'avocats munichois pourraient mettre en cause plusieurs responsables de l'église allemande. Parmi les hauts dignitaires de l'archevêché de Munich, Freising figure l'actuel cardinal Reinhard Marx, mandataire du rapport, mais aussi son prédécesseur Friedrich Wetter et Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, qui dirigea l'archevêché de 1977 à 1982. Or, c'est à cette période que remonte un cas jugé symptomatique des défaillances de l'église dans le traitement des affaires de pédophilie. En 1980, un vicaire de Rhénanie du Nord-Westphalie est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Il est transféré en Bavière où il poursuit son activité. En 1986, un tribunal le condamne à une peine de prison avec sursis. Il est de nouveau transféré dans une autre ville où il officie en tant que prêtre pendant une vingtaine d'années. Il sera finalement contraint à prendre sa retraite en 2010. Sur ce sujet, le pape Benoît XVI a fait parvenir aux avocats une prise de position détaillée de 82 pages dont le contenu est très attendu.
Et en 2010, le vicaire général Gerhard Bröber en avait assumé la responsabilité et avait déclaré que Joseph Ratzinger n'avait pas eu connaissance du passé du prêtre.
En France, un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce matin.
Et le gouvernement devrait réfléchir à un agenda d'allègement des restrictions sanitaires, même s'il est a priori encore trop tôt pour les mettre en place dès maintenant. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, envisage d'ailleurs de prolonger pour encore 2 semaines la règle des 3 jours minimum de télétravail.
Et dans le même temps, les enseignants sont de nouveau appelés à faire grève aujourd'hui.
La mobilisation pourrait toutefois être moins importante que la semaine dernière, malgré les récentes révélations concernant les vacances à Ibiza du ministre de l'Éducation nationale juste avant la rentrée scolaire. À Paris, la manifestation ne sera pas empêchée, malgré le dépôt hors délai de la demande par les syndicats. Ils réclament notamment le report des épreuves de spécialité du bac prévues en mars et l'annulation des évaluations de mi-CP. Ils veulent aussi davantage de matériel de protection, même si le gouvernement a promis de leur fournir 5 millions de masques FFP2. L'une des autres pistes pourrait être d'encourager l'installation dans les écoles de purificateurs d'air, car ce n'est pour l'instant pas si évident, Vanessa Sanson.
Réclamés à corps et à cris par les enseignants, les purificateurs d'air coûtent cher à la collectivité. La commune de Sallanches a déboursé 30 000 euros pour équiper ses 10 restaurants scolaires. Un investissement que ne regrette toutefois pas le maire Georges Morand.
Si on pourrait qu'on vous fasse voir les filtres quand on les récupère et qu'on les nettoie, ce qu'ils vont récupérer, ça vous ferait peur. C'est sûr que ces purificateurs d'air, il y a une lampe UV qui détruit tous les germes, aussi bien pour éviter d'avoir des gastro, des grippes et autres. Ça aussi, l'avantage des particules fines. Je pense que c'est une vraie avancée pour la santé des gamins.
Au printemps 2021, la région a financé à 80% les purificateurs d'air qui étaient installés par les communes. L'État, lui, n'a pas suivi. Philippe Domergue, directeur d'école à Thonon, ne comprend pas ce choix de l'Éducation nationale.
On n'a strictement aucune réponse. Le gouvernement, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit au mairie que ce serait bien que vous les installiez, mais il ne leur donne pas d'offre de moyens financiers pour le faire. Donc du coup, ça ne se fait pas.
Alors le purificateur d'air est-il vraiment efficace pour lutter contre la Covid? Tout dépend de l'appareil, nous dit ce spécialiste. Philippe Ducreux, chef d'entreprise à Evian, s'est lancé dans la conception de purificateurs. En test à l'école hôtelière de Thonon, 40% des particules dans la salle de restauration étaient détruites en 40 minutes. C'est plus efficace qu'une simple aération, selon lui.
J'ouvre la fenêtre pour diminuer la charge de CO2, puisque ça, on ne peut le faire qu'en aérant. Mais par contre, quand j'ouvre la fenêtre, je recrée une pollution, puisque l'air extérieur rentre dans la pièce et surtout je ne maîtrise pas du tout ce que j'ai fait.
Et ce type de machine coûte environ 1 millier d'euros par appareil, sans compter l'entretien des filtres à faire très régulièrement, un entretien que seul un technicien habilité peut réaliser.
La précision de Vanessa Sanson. Ce chiffre à présent, déjà 7 suicides de policiers depuis le début de l'année. Les 2 derniers se sont suicidés mardi à Lille et à Strasbourg. Le phénomène n'est malheureusement pas nouveau dans une profession où le mal-être est encore difficile à détecter et à prévenir et où il y a parfois une perte de vocation, d'après Michel Toris, secrétaire général du syndicat France Police, policiers en colère.
Il y a un problème de conditions de travail chez nous et de sens, encore une fois, des missions. Beaucoup de fonctionnaires de police rentrent par vocation et ils se rendent très vite compte, en fait, que le travail qu'ils font n'est pas efficace en termes de règlement du problème de la criminalité, de la délinquance. Donc, beaucoup de collègues perdent le sens de l'idéal de leur engagement, qui est de servir, évidemment, le peuple et la nation. Ils ont l'impression que les missions qu'ils font ne sont pas valorisées. Vous savez, aujourd'hui, le policier, sa parole, elle est moins bien considérée que celle du voyou. C'est ça, la réalité. Et donc, quand cet exercice de la mission se cumule avec une pression sur les chiffres, une mauvaise ambiance dans certains services, avec une fracture entre la hiérarchie et les policiers de base, il faut quand même le dire, même si on a des bons commissaires, on a des bons officiers, mais il y en a aussi parfois malheureusement des mauvais. Et il suffit dans un service d'une mauvaise autorité pour pourrir l'ambiance dans ce service.
Le directeur général de la police nationale doit aujourd'hui rencontrer les organisations syndicales et les associations pour évoquer donc cette vague de suicides depuis le début de l'année.
Il est 6h40 sur RCF. Allez, on part dans le sud, prendre un petit peu le soleil et déguster un agrume jaune connu dans le monde entier. Et
le citron de Menton est en ce moment récolté sur les hauteurs de la Côte d'Azur. Les arbres ne doivent pas se trouver à plus de 7 km de la mer pour que le citron soit bien de Menton. Alors Stevlan Chezigostovic est resté dans ce périmètre pour suivre la cueillette.
Dans la colline de Menton, une pente raide, des terrasses verdoyantes et des fruits oranges, jaunes, et cachés sous les terrasses, les anciens ont construit des réserves d'eau pour les arbres. C'est ce qu'explique Fabrice Puech, co-dirigeant au Pays du Citron.
Vous voyez, c'est un tunnel qui va loin sous la roche. Et en fait, c'était des trous. Ils creusaient quand ils trouvaient une sorte de source. On rajoutait des pierres pour faire des arches, pour bien tenir le tout. C'est un bassin naturel qui se forme. Et cette source, petit à petit, elle remplit ce bassin. Et c'est de l'eau qui nous sert pour l'arrosage. Ça doit avoir peut-être 500 ans, ce trou qui a été creusé par la main de l'homme au départ et qui sert donc de réservoir d'eau naturelle.
Une fois désaltérés et ensoleillés, les citrons sont presque prêts. La cueillette est en approche. Les fruits sont encore verts aux extrémités. Quelques jours à attendre sur les terrasses de Menton.
David, c'est en bas. Ok, j'arrive.
David commence à détacher certains agrumes des arbres.
Ça va aller pour descendre ?
Mais oui.
À la main tous, à la main, avec le panier, le sécateur, et on cueille. On va chercher les plus mûrs et on laisse les moins mûrs pour après. Faut pas éclater les fruits, quand ils tombent par terre, ils s'éclatent tout.